Radio Grésivaudan, Radio des villes, Radio des champs.
Cela ne vous aura peut-être pas échappé, l'eau dans le Grésivaudan et puis partout dans le monde est en proie à de nombreuses convoitises. Cette ressource plus rare qu'on ne l'imagine, mais surtout vitale, fait l'objet de nombreux usages, notamment ceux des industriels. Et à cet égard, en avril de cette année avait eu lieu durant plusieurs jours une large mobilisation à Grenoble contre l'agrandissement des usines de microélectronique à Crolles, lesquelles consomment plus de 16 000 mètres cubes d'eau potable par jour. Alors, 16 000 mètres cubes d'eau potable, peut-être que ça ne parle à personne en termes d'ordre de grandeur, mais pour entre autres comprendre et mettre en perspective ce chiffre, et puis tout ce que cela implique, eh bien, il existe une magnifique BD qui traite le sujet, qui s'appelle « Toujours puce, les macro-dégâts de la microélectronique ». Une BD docu-fiction sur l'impact environnemental d'une usine de semi-conducteurs et le clivage politique qu'elle suscite. Et une BD qui fait autant appel à l'imagination, à l'humour et à l'ironie qu'à une documentation minutieuse. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir eh bien, les autrices de cette bande dessinée à Radio Grésivaudan, Elsa et Maude Le Carpentier. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir fait le détour même par les studios de Crolles. Est-ce que vous venez de loin déjà ?
Eh ben, merci à vous de nous accueillir aussi. moi, du coup, ça fait 3 ans que j'habite à Grenoble maintenant, donc c'est pas si loin. C'est à plus d'une dizaine de kilomètres.
Et moi, je viens de Briançon. Donc, okay. Mais j'ai habité 7 ans à Grenoble avant.
Donc vous connaissez bien le coin finalement. Et votre BD, donc Toujours Puce, elle vient tout juste de sortir aux éditions Le Monde à l'envers. C'était il y a quelques jours la sortie, c'est ça ?
C'est aujourd'hui en fait officiellement. Oh. Enfin, il y avait écrit parution officielle le 6 octobre, qui est un dimanche, donc les librairies n'ouvrent pas le dimanche en général. Donc c'est aujourd'hui que ça sort en rayon en librairie.
Incroyable, ok, ça tombe très bien donc finalement. On va parler de cette BD. Peut-être juste avant, vous présenter un petit peu, Elsa, vous êtes sociologue diplômée d'un master d'études environnementales à l'école des hautes études en sciences sociales. Et Maude, vous êtes diplômée des métiers d'art spécialisés dans les techniques de dessin traditionnel encre et aquarelle. Et vous êtes toutes les deux sœurs aussi, si je ne me trompe pas.
C'est ça.
Ok. Est-ce que vous avez l'habitude déjà de travailler ensemble ou est-ce que c'est votre premier projet à deux ?
Eh bien, on a eu l'habitude de travailler ensemble, mais sans avoir de projet abouti. En fait, ça faisait plusieurs fois qu'on avait plein de projets de BD et qu'on se disait « Ah, on a un nouveau sujet sur le tapis !» Et on n'arrivait pas à se discipliner suffisamment pour le faire venir à bout. Et du coup, on s'est dit qu'on avait envie de solliciter une maison d'édition cette fois-ci pour arrêter d'aller de projet en projet. Et donc, c'était à la fois du travail ensemble, mais qui était souvent sous forme de brouillon, d'esquisse, de brainstorming un peu, et du coup là c'est la première fois qu'on a vraiment un travail abouti avec un suivi sur plus d'un an. Ouais.
Ok, et pourquoi la BD ça a toujours été un peu autour de ça, tous vos travaux ensemble?
Eh ben, on a un peu grandi là-dedans, et notre père il collectionne beaucoup de bandes dessinées, il en a plus de 500 à la maison, okay. Donc on en a lu beaucoup étant jeune, on avait vraiment cette envie-là depuis longtemps, ouais. Okay. C'est notre univers.
Et qu'est-ce qui vous a amené cette fois-ci donc à ce sujet, les macro-dégâts de la microélectronique ? Qu'est-ce qui vous a introduit à ça ?
Eh ben, c'est un joyeux concours de circonstances, où en fait du coup on s'est d'abord dit qu'on avait envie de solliciter une maison d'édition avant de galérer à présenter un projet qu'on aurait réussi à terminer mais qui intéresserait personne. Donc on s'est d'abord tourné vers Le Monde à l'envers, qui était une maison d'édition associative et locale. Et donc on avait un projet de base qui n'était pas celui-là. Et en fait, ils nous ont dit que les enjeux étaient plutôt locaux, en fait, dans leur ligne éditoriale, et qu'ils avaient envie de parler de problèmes autour de Grenoble et du Grésivaudan. Et on a réfléchi ensemble à ce qui pourrait à la fois les intéresser et nous intéresser. Et on s'est retrouvés un jour sur la manifestation contre ST Microelectronics, donc en 2023. À papoter à la fin de la manif et à se dire « Ah, en fait, ça, c'est une lutte qui traite d'enjeux super intéressants et qui est très peu visibilisée. En tout cas, au niveau local, ça commence à avoir un petit peu de médiatisation, mais c'est quand même des luttes, la critique de la technologie, qui sont peu abordées parce que très clivantes. Et que, du coup, on avait bien envie de prendre cette question-là à bras-le-corps avec, avec le média qu'est la BD, qui vulgarise assez facilement et qui peut permettre de rendre accessibles des contenus aussi. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait.
Ok, c'est vrai que c'est exactement ça, c'est une vulgarisation qui rend le sujet qui peut paraître un peu dur, difficilement accessible de loin, mais en fait cette BD le rend vraiment très accessible et c'est un excellent support donc finalement. C'est une BD oui qui traite donc d'une entreprise qui est située à Crolles, qui prend cet exemple, donc finalement tous les habitants du Grésivaudan peuvent vraiment s'identifier. Il y a beaucoup d'exemples même qui sont repris, des exemples locaux, je pense à Aristide Bergès, c'est bien ça. Bref, il y a plein de choses dans lesquelles on peut vraiment se reconnaître quand on habite dans cette vallée. Du coup, ça fait un peu plus d'un an que vous avez commencé à l'écrire, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. C'était à la manifestation en 2023, ouais, 1er avril.
Ok. Mm. Et comment on s'y prend pour écrire une BD ? Est-ce que d'abord, c'est donc des idées que vous mettez sur le papier, ensuite les dialogues viennent, ensuite l'illustration ? Quel est le processus un petit peu ?
Ça a été assez long. Bah, déjà, nous, on voulait s'assurer que c'était un enjeu qui nous parlait suffisamment parce qu'on... On avait eu des échos de cette lutte-là, mais on ne savait pas à quel point c'était quelque chose auquel on voulait s'atteler sur un an, parce qu'on savait que c'était un projet long quoi, de faire une BD. Et du coup, ça a été d'abord beaucoup de travail de documentation. Au début, vraiment que ça. Pendant 2-3 mois, on a lu plein d'articles, plein de rapports, à la fois de l'usine elle-même, mais aussi, par exemple, des instances gouvernementales ou environnementales, régionales, départementales, enfin toutes les commissions d'enquête, tous les rapports, les gros dossiers de plusieurs centaines de pages bien techniques et bien arides et complexes. Et une fois qu'on a un petit peu décelé des enjeux qui nous parlaient et qu'on s'est dit qu'il y avait suffisamment à raconter là-dessus, on a commencé à construire une trame narrative, à réfléchir à comment scénariser ça, comment faire une histoire. Et du coup ça a été peut-être 2-3 mois de réflexion avec une construction de personnages et de réflexion autour de ça, et puis le dessin est arrivé plus tard en fait. C'était d'abord un gros travail de documentation et de scénarisation qui a duré presque plus de la moitié du processus en fait. Presque 6 mois, ouais.
Ok. On le ressent juste en lisant ce travail de documentation. Tout est sourcé, il y a plein de références scientifiques, il y a plein de références à des documents dont vous parliez. Et pour revenir un petit peu sur le dessin aussi, vous êtes toutes les deux, si j'ai bien compris, illustratrices, donc vous avez tous les deux mis votre patte au dessin ou pas ?
Et oui, c'était un jeu assez drôle, un pari qu'on a fait, puisque Elsa, elle faisait les personnages plutôt, les poissons, les personnages humains, et moi je devais construire les décors autour, donc c'était un jeu de jonglage pas évident. Au départ, Elsa mettait les personnages, et après moi j'assemblais avec les décors, et puis on faisait un jeu d'échange au fur et à mesure pour... réadapter si besoin, s'il y avait quelque chose qui ressortait pas assez. Et pas évident.
Pas évident, mais qui mène à un beau résultat. Et donc, pour rentrer un peu aussi dans le vif du sujet, finalement, c'est donc un enjeu mondial que vous traitez, qui est le partage de la ressource en eau, mais aussi, plus globalement, la technologie, finalement, et puis même nos modes de vie associés. Vous avez choisi de prendre l'exemple de cette entreprise, ST Microelectronics, qui est une usine de semi-conducteurs de renommée mondiale basée à Crolles, pour comprendre déjà, juste parce que je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est qu'un semi-conducteur, à quoi ça sert et quels en sont les usages.
Alors du coup, un semi-conducteur, c'est un peu comme un mini-ordinateur qu'on met dans plein d'usages technologiques. C'est un peu en fait le cerveau de plein de machines qu'on utilise. Donc on en retrouve dans les téléphones, dans les voitures, en fait dans tout ce qui comporte des systèmes électroniques. Donc avec plus ou moins de complexité selon ce qu'on appelle la finesse de gravure. Donc c'est en fait les semi-conducteurs, ils vont comporter des transistors qui sont des interrupteurs et qui communiquent les informations numériques et qui permettent en fait à des systèmes électroniques de transmettre des informations. Et du coup pour ça il faut beaucoup beaucoup d'eau parce que en fait il faut énormément de couches parce qu'un semi-conducteur, donc comme son nom l'indique, ça conduit mais pas que. Enfin ça doit à la fois conduire et isoler des courants électroniques pour transmettre des infos. Et pour ça, du coup, il faut graver ces puces et avoir plein de couches de métaux qui sont soit conducteurs, soit isolants. Et en fait, entre ces couches de métaux, il faut laver à l'eau ultra pure parce que sinon, il y a des courts-circuits qui peuvent se faire. La moindre bactérie, la moindre micro-particule en fait, qui se niche dans des circuits peut en fait, faire des courts-circuits. Et du coup, c'est pour ça qu'ils ont choisi la magnifique eau de la nappe phréatique de Grenoble. C'est parce qu'elle est à la fois assez pure, donc il la purifie encore davantage après, et qu'aussi elle est très peu chère en fait, comparativement à plein d'autres nappes phréatiques en France.
Ok, et qu'est-ce que ça veut dire de l'eau ultra pure globalement, qu'est-ce que ça implique en fait?
Alors l'eau ultra pure du coup c'est de l'eau à 99% H2O, donc ça veut dire qu'elle a été ultra filtrée et déionisée, donc il y a plein de processus en fait pour enlever toutes les matières organiques, tous les corps organiques, toutes les bactéries qui peuvent être présentes dans l'eau qu'on boit. Et c'est aussi ce qui la rend potable, en fait, finalement. Normalement, nous, on a besoin d'eau avec des minéraux, parce que sinon, en fait, notre organisme ne peut pas la fixer. Et du coup, nous, si on buvait cette eau-là, on aurait une diarrhée assez intense, parce qu'en fait, l'eau 100% ou 99% H2O, elle n'est pas assimilable par le corps humain. Donc, par contre, ils en ont besoin pour les puces, parce que, justement, cet enjeu d'avoir l'eau la plus pure possible pour nettoyer ces fameux semi-conducteurs.
Et tu le disais, l'eau, elle vient de cette nappe phréatique. C'est une question un peu bête, mais la nappe phréatique, est-ce qu'elle est illimitée? Comment on voit l'avenir sur cette nappe?
Pour l'instant, il y a un peu un récit autour de l'abondance de l'eau potable à Grenoble qui est assez vrai parce que l'eau vient des montagnes et qu'on a encore des réserves. Donc c'est vrai que c'est souvent une objection qu'on a en disant « Ah, mais il y en a encore plein de l'eau, il n'y a pas de souci ». C'est vrai qu'en plus, on parle souvent de réchauffement climatique, mais en fait, on peut aussi parler de dérèglement climatique. Et du coup, on ne voit pas forcément des effets immédiats en termes de sécheresse. Ça dépend des années. Il y a des années où on a eu des sécheresses hivernales, d'autres où là, on a eu des pluies particulièrement abondantes. Mais ça présage en rien, en fait, du long terme. Ou en fait, à long terme, ce qu'on voit quand même, c'est un réchauffement, on va dire, en moyenne. Donc, c'est des moyennes qui vont venir... se manifester plutôt avec des trucs très progressifs, quoi. Enfin, avec des augmentations de degrés très progressives. Mais sinon, par rapport à l'eau, en fait, une nappe phréatique, oui, certes, c'est un stock. Et après, du coup, là, ce qu'on voit, en fait, au niveau... donc, on a utilisé aussi des cartes à la fin de notre BD pour montrer ça. C'est que, déjà, au niveau régional, là, on a des nappes phréatiques qui sont déjà à des seuils assez critiques. Et c'est des alertes qu'on voit régulièrement aussi au plus fort de l'été. On l'a vu cette année, on l'a vu sur les années précédentes. Des nappes qui sont en dessous des seuils, en fait. Et il y a aussi une question de recharge, c'est que les nappes, une fois qu'elles ont franchi des seuils critiques, elles mettent plus de temps à se recharger. Donc il y a aussi cet enjeu-là de seuil à ne pas franchir. Et on se rend compte, par exemple, qu'au niveau du Pays Voironnais, il y a déjà des enjeux d'approvisionnement où il y a des transferts qui sont nécessaires, en fait, d'eau d'une nappe vers l'autre. Ou d'approvisionnement par camion, par exemple, pour des moments où les nappes ont dépassé des seuils, enfin, sont en dessous des seuils critiques.
Parce qu'en gros, petite précision, en fait, c'est la nappe grenobloise qui est particulièrement abondante, qui est censée approvisionner les endroits où il manque d'eau. Donc, on a vu l'exemple avec Saint-Maximin en 2022. On le cite au début de la BD, justement, c'est par ça qu'on on a choisi de commencer. En fait, à Saint-Maximin, il manquait d'eau. Donc la nappe phréatique de Grenoble a permis de les pourvoir par des camions-citernes qui ont apporté l'eau à la citerne de Saint-Maximin. Et donc on trouvait ça particulièrement étonnant, sachant que ST n'a aucune restriction dans ces moments de sécheresse et que les habitants peuvent manquer d'eau potable.
Et ironie du sort aussi sur la carte qu'on montre à la fin de la BD, en fait, y a donc toutes les nappes en rouge qui montrent les seuils critiques. Et on note bien que la carte ne prend pas en compte le changement climatique. En fait, c'est une carte prévisionnelle. Mais vu que le changement climatique est trop imprédictible et trop complexe à modéliser, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est à échelle constante, quoi. Ils regardent un petit peu, depuis les 10 dernières années, comment l'eau a évolué. Ils se basent là-dessus. Mais ils n'arrivent pas à prévoir avec le réchauffement global et les indices d'augmentation de la température ou de baisse de l'hydrométrie aussi des sols. Donc c'est vraiment des paris qui sont plutôt optimistes aussi venant d'eux, alors que c'est déjà des scénarios qui sont pas forcément très... qui donnent pas forcément beaucoup d'espoir par rapport à la ressource en eau, quoi.
On peut imaginer que ça sera encore pire, du coup. on comprend bien, du coup, que ça peut poser des problèmes... juste de quantité et puis de sécheresse à terme, puisque cette ressource est limitée dans la vallée, du coup. Est-ce que ça pose d'autres problèmes aussi que ça, juste la disponibilité?
Ouais, il y a plein d'autres problèmes parce que justement, la technologie, elle est assez totalisante en fait dans son impact environnemental. C'est ce qu'on montre aussi dans la BD, c'est que on n'a pas, enfin, on voulait pas avoir un prisme culpabilisant vers les personnes qui utilisent des appareils numériques, mais plutôt regarder avec un regard très macro, quoi, et systémique de, ok, en fait, c'est des objets qu'on utilise, mais on se rend pas compte au quotidien de tout ce qui est nécessaire à la production de ces objets-là, parce que c'est dématérialisé, en fait. Mais sur toute la chaîne de production, donc à la fois des semi-conducteurs, mais de tous les objets dans lesquels ils se situent, il y a un impact environnemental à plein de niveaux, donc déjà au niveau de l'extraction des minerais et des métaux pour produire les semi-conducteurs notamment et tous les objets dans lesquels ils sont. Donc ça, c'est des choses qu'on ne voit pas parce que c'est dans d'autres pays, c'est dans d'autres continents même. Et après ça, donc il y a aussi l'enjeu de l'accaparement des ressources, comme on a pu le voir avec l'eau et avec d'autres métaux, d'autres minerais. Et aussi, donc il y a un enjeu en aval qu'on invisibilise aussi pas mal, c'est la question de la pollution, et notamment là qui a été beaucoup médiatisée avec la question des PFAS, donc qui sont des polluants éternels. Donc c'est surtout l'usine Arkema là qui était au cœur de l'actualité sur ces questions-là, mais du coup, le collectif Stop Micro essaye aussi de visibiliser le fait que ST rejette notamment des PFAS dans l'Isère et que ces polluants éternels-là, en fait, ils sont vraiment... Enfin, c'est des microparticules qui sont conçues et pensées pour ne pas être détruites parce que c'est leur vocation dans les appareils électroniques. Mais du coup, une fois dans les milieux environnementaux, elles peuvent complètement perturber un écosystème, elles peuvent avoir des impacts irrémédiables parce qu'en fait, c'est des doses minimes, mais qui sont accumulées sur des décennies. Et une fois qu'elles sont accumulées, en fait, elles peuvent complètement enrayer tout le fonctionnement d'un écosystème. Et ça peut être le fonctionnement du cycle de l'eau, mais c'est aussi la vie de plein d'espèces et aussi la vie de l'espèce humaine, en fait, parce qu'on en ingère aussi fatalement quand on va boire de l'eau et quand on va se nourrir aussi des légumes qui ont utilisé cette eau pour pousser.
C'est une bande dessinée qui regorge, donc vous l'aurez compris, de références scientifiques, de plein de choses, mais aussi beaucoup d'humour. Il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire, c'est quand vous illustrez le combat, la problématique de la technologie avec deux personnes technophobes, le bouseux, contre super technophiles. Ça m'a fait rire. Et après, vous expliquez que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais il y a une phrase que j'ai bien aimée qui résumait un peu tout ça, cette problématique autour de la technologie, c'est que la technologie, c'est à chaque solution son problème. Et voilà, et vous l'expliquez dans la bande dessinée. Voilà, il y a plein de choses très drôles, plein de choses très intéressantes. Voilà. Pour revenir un peu sur comment vous avez enquêté pour créer cette BD, parce que c'est un véritable travail d'enquête, tu as parlé un peu de Stop Micro, je ne sais pas si on en avait parlé plus tôt, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu de qui il s'agit, qu'est-ce que c'est que cette association, et puis aussi peut-être compléter sur votre enquête, est-ce que vous avez fait appel à d'autres gens, d'autres pour en savoir autant sur ST Micro Electronics par exemple.
Alors sur le collectif Stop Micro, c'est vrai que je n'ai pas mentionné l'historique un peu, parce que c'est vrai qu'on est tellement... Ça fait tellement un an qu'on travaille avec ces personnes-là qu'on n'a plus l'habitude de revenir du début. Mais du coup, eux, ils sont rassemblés donc, en 2022. Donc, c'était un petit collectif au début de 5-6 personnes et qui a plutôt grandi. Là, il y a une vingtaine, voire trentaine de personnes très actives dans ce collectif-là, avec aussi des personnes qui gravitent autour pour filer des coups de main. Et l'idée, c'était de s'emparer de ce problème, en fait... Ils sont partis de la question de l'accaparement de l'eau parce que c'était un moment assez critique où l'annonce de l'agrandissement d'ST Microelectronics avait été faite par le président Macron en personne, donc avec presque 6 milliards d'investissements pour agrandir l'usine. Et y a eu vraiment une volonté en fait, des personnes de ce collectif de se dire waouh, en fait là, c'est 6 milliards, dont la moitié en fait, qui sont un investissement de l'État. Donc il y a une vraie question politique dont on est dépossédé en fait, au niveau local. Alors que c'est à côté de chez nous, ça prend l'eau de la nappe aussi qu'on est censé utiliser nous. Donc il y a vraiment une question de démocratie en fait qui est plus questionnée parce que on va prôner l'attractivité économique, on va prôner les emplois sans se demander au niveau juste démocratique et de qu'est-ce qu'on a envie de produire localement, comment on pourrait se réapproprier ça quoi. Et du coup Stop Micro s'est constitué comme ça et a visibilisé un peu la lutte dans une année où il y a eu la sécheresse hivernale aussi, donc ça a pas mal parlé à beaucoup de gens. Après, il y a eu tous les enjeux autour des méga-bassines aussi qui sont survenus, donc qui ont permis aussi d'avoir plus de médiatisation sur la question de la sécheresse, de l'accaparement de l'eau. Et du coup, ils ont organisé leur première manifestation en 2023, donc c'est là où on a commencé à parler de la bande dessinée. Il y a eu une deuxième manifestation cette année avec encore plus de monde et encore plus d'énergie pour arriver à dénoncer tout ça. Et c'est dans une optique vraiment de créer aussi à nouveau du débat en fait, sur ces questions-là de la technologie où il y a plein de personnes, on peut penser au niveau d'Europe Écologie Les Verts, en fait, qui considèrent que ça fait partie de la transition énergétique et qu'on ne peut plus questionner ça parce que STMicro va contribuer à l'efficacité énergétique, va réduire la consommation. C'est des questions aussi qu'on aborde dans la BD. Quand on parle de réduire la consommation énergétique, il y a ce qui s'appelle l'effet rebond qui fait que quand bien même on arrive à faire en sorte qu'une machine consomme moins, en fait, ça va nous inciter à produire plus et à consommer plus au final parce qu'on s'est dit « Ah, du coup, grâce à toute l'énergie qu'on a économisée, on va pouvoir relancer la production. » Et en fait, ça, c'est des biais qui sont à l'œuvre depuis le début de l'utilisation de l'électricité et même d'autres sources d'énergie, en fait, avec la révolution industrielle. C'est des choses qu'on a observées et quantifiées et en fait, qu'on connaît, quoi, mais qui, finalement, sont toujours centrales dans les processus de production et qui en fait viennent complètement invalider toutes les théories de ces usines qui disent qu'elles vont sauver la planète en permettant cette efficacité-là.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au final, vers où se dirige-t-on ? Ou du moins, même si vous ne savez pas forcément vers où on se dirige, mais quel est le monde que vous souhaiteriez advenir ?
Ça, on a fait des doubles pages à la fin. Une pour présenter... qu'est-ce que serait le Grésivaudan selon l'option de relocaliser, par exemple, les mines, les déchetteries électroniques qui font partie aussi de l'impact sur la planète. Donc on a essayé de visualiser, de représenter ce que serait le Grésivaudan si on laissait toute cette entreprise grandir de manière infinie. Donc on a un peu grossi le trait, mais c'était le but, pour un peu voir l'impact au niveau de la biodiversité. Et ensuite, on a fait une double page, la même, donc avec le Grésivaudan tel qu'on pourrait l'imaginer si on pensait différemment. Pas seulement supprimer toutes les technologies de nos vies, mais juste les réduire au strict minimum ou à quelques usages qu'on aurait choisis. Donc rétablir une sorte de pouvoir démocratique, de pouvoir décisionnel, où tout le monde aurait voix au chapitre. Et ce ne serait pas seulement l'État qui prendrait des décisions qu'on aurait à subir par la suite, quoi. Donc on a essayé un peu d'imaginer l'envers du décor.
Et c'est drôlement bien fait. Ça complète bien. C'est une belle fin, une belle ouverture à cette BD. Donc toujours plus pour ceux qui nous rejoignent. C'est une BD qu'ont écrit Maud et Elsa Le Carpentier qui sont avec nous. En ce moment, toujours plus les macro-dégâts de la micro-électronique. C'est une BD de bande dessinée d'une 80 pages à peu près qui se lit extrêmement bien et qui est disponible depuis aujourd'hui aux éditions Le Monde à l'envers. Est-ce que vous avez peut-être d'autres projets déjà en tête qui vont suivre cette bande dessinée un petit peu ou c'était un one-shot ?
Mais du coup, ça fait pile le lien avec la dernière question qu'on a abordé là, qui est la question des imaginaires. Nous, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur et qu'on a pas mal creusé pour construire ces deux dernières doubles pages. Là, c'est comment on se projette en fait dans ce monde-là où on est beaucoup dépossédé en fait des questions politiques, des questions de production, de notamment la technologie et comment on l'utilise. Et du coup, il y a un ouvrage qui nous a pas mal marqué récemment d'un anthropologue qui s'appelle David Graeber, qui parle de donc ça s'appelle Au commencement était. Une autre histoire de l'humanité et ça vient interroger en fait comment on se perçoit en tant qu'humanité dans ce monde justement là où il y a de moins en moins de ressources et où en fait on a eu des impacts environnementaux qui nous dépassent. Il explore en fait plein de manières d'exister qu'ont eu d'autres humains avant nous et notamment des manières de fonctionner en fait politiquement ensemble et il dit en fait là on s'est retrouvé dans une société où on est bloqué, donc on a un système économique et politique qui nous empêche en fait de reprendre des décisions qui pourraient avoir un impact environnemental moindre, où en fait on est vraiment pieds et poings liés parce qu'il y a des décideurs au-dessus de nous, parce qu'il y a toute une machine en fait qui est lancée. Mais du coup, il réinterroge tout ça à la base en disant en fait, c'est pas une fatalité, c'est pas la nature humaine que d'être arrivé à ce stade-là. En fait, il y aurait eu plein d'univers de possibles autres. Et du coup, ça nous a beaucoup inspiré. On s'est dit qu'on avait bien envie pour une prochaine BD d'explorer ces autres univers possibles pour arriver à rêver encore.
C'est beau. Trop cool. Oh, bah, on a hâte de découvrir tout ça. On espère que ces projets vont voir le jour bientôt. En tout cas, la BD Toujours Puce, elle est disponible, comme je vous l'ai dit. N'hésitez pas si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet. C'est vraiment chouette. Elle est Macro Dégâts de la Microélectronique. Une BD docu-fiction sur l'impact environnemental d'une usine de semi-conducteurs et les clivages politiques qu'elle suscite. Voilà, merci beaucoup en tout cas à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pris un peu de temps pour répondre à nos questions. Je sais pas si vous souhaitiez rajouter une dernière chose ou tout est dit.
Je crois que tout est dit. Merci à vous pour l'invitation et bonne lecture aux personnes qui se procureront la BD.
Merci beaucoup.